d'histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité des expositions d'histoire, actualité des enquêtes d'histoire. Après un dernier petit précis d'histoire à l'usage des politiques, nous partons à la découverte d'une découverte justement très importante, historique et archéologique, celle d'une Geniza, dépôt rituel d'écrits et d'objets liés au culte trouvés dans la synagogue de Dambach-la-Ville en Alsace et exposé à Paris au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Claire de Comps, qui a découvert cet héritage inespéré, nous en parlera dans un instant. Puis en deuxième partie de cette émission, Patrick Garcia et Thomas Bayerjon viendront nous parler de la grande enquête qu'ils lancent auprès des professeurs d'histoire-géographie pour comprendre, comme Jacques et Mona Ozouf ont pu le faire avec les instituteurs au début des années 60, pour comprendre l'engagement de ces professeurs dans leur pratique également. Donc, professeurs d'histoire-géographie dans l'enseignement, ils nous raconteront ce qu'ils veulent faire avec cette enquête. Enfin, Franz Olivier, qui est éditeur aux éditions Anacarsis, nous parlera de Régis Boyer, grand spécialiste des sagas islandaises dont on a appris la disparition, donc cette semaine. Régis Boyer, qui l'édite donc chez Anacarsis, mais je vous ai promis un dernier petit précis d'histoire. C'est le moment de l'écouter tout de suite.
35. Allez-y, madame. Mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Vous comptez les deux registres ?
François Mitterrand. Est-ce qu'on fait dans les épingles ?
Non, non.
Oui, mais pour les recompter après.
Saint,
on laisse ça et on met le loup. D'accord.
Ça fait 7 minutes. Il est 20h, le scrutin est clos.
Et pour ce dernier petit précis d'histoire à l'usage des politiques de l'année, donc à l'occasion de cette année électorale, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Cotte, professeure à Genève, spécialiste de l'Allemagne, des organisations internationales, et vous avez choisi pour ce petit précis de nous parler de la citoyenneté sociale comme école de la démocratie. Vous saisissez pour cette occasion les assurances sociales allemandes de la fin du 19e siècle, qui sont une sorte d'exemple et qui d'ailleurs résonnent étrangement avec l'actualité que nous connaissons autour des lois sur le travail en France. On vous écoute.
Merci beaucoup. En 1949, dans une célèbre conférence, le sociologue britannique Thomas Marshall présentait la citoyenneté sociale comme le couronnement d'une histoire en trois étapes, qui aurait commencé au XVe siècle avec l'apparition des droits civils, se serait poursuivie par l'acquisition des droits politiques au XIXe siècle et se serait achevée au XXe siècle avec celle des droits sociaux. Selon ce modèle devenu une sorte de standard, la citoyenneté sociale serait donc simplement venue s'ajouter à la citoyenneté politique. À partir de l'exemple des premières lois sociales allemandes de la fin du XIXe siècle, je me propose de renverser cet ordre et de montrer que la politique sociale, les droits sociaux, la citoyenneté sociale contribuent profondément à asseoir la démocratie politique. Elle a même, pour les femmes en particulier, contribué à la rendre possible. Dans le cas qui nous occupe, celui de l'Allemagne du XIXe siècle, cette étroite corrélation entre démocratie sociale et démocratie politique peut être étudiée à partir de deux terrains, celui du développement et de l'encadrement légal de la négociation collective entre travailleurs et employeurs, tout à fait d'actualité, et celui de l'assurance ouvrière ou sociale. Pour ce petit précis, c'est à ce second terrain que je vais me limiter. Contrairement à l'image qui en a été diffusée en France et en Angleterre, les lois d'assurance sociale obligatoire des années 1880, dites lois bismarckiennes, faussement d'ailleurs, maladie, accident et invalidité, n'induisent pas une surveillance ou un enrégimentement des travailleurs. Ces lois fonctionnent sur le principe de l'auto-administration, qu'on a pu parfois traduire par autogestion, un terme qui pourtant résonne de manière très différente en français. Ce qui signifie que les contributeurs, travailleurs quel que soit leur genre ou leur nationalité, et employeurs gèrent ensemble les institutions d'assurance et qu'ils en élisent les représentants dans les organes décisionnaires en proportion de leur participation financière. Pour l'assurance maladie, les travailleurs élisent 2/3 des représentants et les employeurs 1/3. Or, ces organes décisionnaires ont plus qu'une fonction purement gestionnaire. Ils disposent d'importants pouvoirs, car la loi prévoit des minima sociaux qui peuvent être substantiellement améliorés par le vote de l'Assemblée générale. Le principe de l'auto-administration des caisses avait d'abord été défendu par les conservateurs au nom d'arguments corporatistes. Mais en fait, il va devenir le lieu et l'instrument d'une expression démocratique à mesure que les ouvriers s'en saisissent. Souvent, par méconnaissance, ces derniers mettent d'abord du temps à s'intéresser à cette possibilité. Même dans les régions de grande industrie, où ils sont mieux organisés, la participation des ouvriers aux premières assemblées générales des caisses locales de maladie et aux élections de leurs représentants reste faible. Les taux de participation sont souvent inférieurs à 10% et la plupart du temps, ce sont donc les employeurs qui assument la direction des caisses. Mais à partir du tournant du XXe siècle, les ouvriers et leurs syndicats s'engagent de manière croissante. Même si le taux de participation ne dépasse pas 30% en moyenne à la fin du XIXe siècle, les élections aux organes des caisses constituent, dans certaines localités, de véritables événements, largement annoncés dans la presse locale. Les listes électorales sont vérifiées précisément pour éviter les fraudes, et les bureaux de vote, souvent trop petits, sont pris d'assaut, suscitant même parfois des émeutes bien documentées dans les sources policières. Ce regain d'intérêt est partiellement le résultat d'une politisation des élections. Celle-ci est liée à l'influence croissante de la social-démocratie et des syndicats qui lui sont liés, et ils entrent en concurrence avec les partis et syndicats catholiques pour l'obtention de fonctions rapidement convoitées. Toutefois, ce n'est pas la seule explication. Dans l'Alsace allemande, par exemple, la fréquentation plus régulière des assemblées générales des caisses de maladie comme la participation aux élections ont surtout concerné les petites communes, largement à l'écart du développement du mouvement ouvrier. Les ouvriers se pressent dans les bureaux de vote et sont présents pour veiller précisément aux affaires de leur caisse. Cette participation témoigne d'un attachement de plus en plus marqué des assurés à leurs droits sociaux, un attachement qui se traduit aussi par l'accroissement rapide du nombre des procédures de recours lorsqu'ils ont le sentiment que ces droits n'ont pas été correctement respectés. Les femmes, démunies de droits politiques, sont d'ailleurs souvent plus promptes que les hommes à se saisir de ces possibilités de recours. Pour ces dernières, plus encore que pour les hommes, l'assurance sociale constitua une véritable école de la démocratie. Rappelons-le, en Allemagne, les femmes n'obtiennent pas le droit d'entrer dans un parti politique avant 1908 et elles n'obtiennent le droit de vote qu'en 1918. Elles ont toutefois, dès 1884, le droit d'élire des représentants aux assemblées et comités directeurs des caisses de maladie. On ne dispose pas de statistiques générales sur leur participation, mais des sondages locaux permettent de savoir qu'elles ont fait un usage croissant de ce nouveau droit. Électrices, les femmes ont même parfois pu devenir représentantes. Dès 1888, 7 femmes sont élues à l'Assemblée générale et une femme siège au comité directeur de la caisse de l'entreprise de la rubannerie de Barry-Mérian dans la petite ville alsacienne de Guebwiller, une entreprise qui compte plus de femmes que d'hommes toutefois. Les femmes sont certes sous-représentées, mais il s'agit bien d'une avancée considérable pour elles. Cette citoyenneté sociale a d'ailleurs constitué un argument pour les féministes qui militent alors pour le droit de vote des femmes. Dans un article écrit en 1941, alors que l'Europe est dominée par la barbarie nazie, Oswald Stein, grand spécialiste tchécoslovaque des assurances sociales et fonctionnaire au Bureau international du travail, rappelait ainsi avec ferveur « L'assurance sociale peut et doit rester une institution d'éducation civique, l'image et l'instrument de la démocratie en action. Jusqu'à aujourd'hui, les droits sociaux ne sont pas seulement des protections offertes aux plus fragiles, ils constituent les instruments de cette démocratie en action et le ciment qui permet de faire société. Ce défi-là reste plus que jamais d'actualité. »
Merci beaucoup Sandrine Cotte pour ce petit précis d'histoire à l'usage des politiques. J'espère qu'ils en feront bon usage justement parce que vous nous montrez bien dans ce document eh bien, qu'il y a une importance de la démocratie sociale, en particulier dans ses racines allemandes de la fin du 19e siècle et que cette démocratie sociale, comme vous nous l'avez dit, précède parfois la démocratie politique, en particulier pour les femmes et leur histoire. Merci beaucoup Sandrine Cotte et donc à une prochaine fois. Thank you. Bonjour Claire Decombes.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes conservatrice de l'inventaire général dans la région Grand Est et vous êtes co-commissaire de cette très belle exposition qui vient tout juste d'ouvrir au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Elle a déjà été exposée à Strasbourg, je
Exactement.
Crois, auparavant. Mais c'est une exposition absolument remarquable qui nous fait révéler, qui nous révèle, puisqu'elle s'appelle L'héritage inespéré, la découverte que vous avez faite avec d'autres, donc d'une Guénisa dans la synagogue de Dambach-la-Ville, donc en Alsace. C'était il y a maintenant 4 ans, ou 5 ans, en 2012. Et vous avez passé beaucoup de temps à l'analyser avant qu'elle puisse, que les résultats de ce travail puissent être exposés. Alors il faut peut-être d'abord nous dire ce qu'est une Guénisa, Claire Decombes, parce que tous nos auditeurs ne le savent pas, même si on se souvient, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire du judaïsme, qu'il y a eu une telle découverte bien plus importante en nombre à la fin du 19e siècle. Je crois d'ailleurs qu'on n'a pas fini de l'explorer.
Oui, il y a encore des centaines de chercheurs.
Voilà, qui travaillent dessus, sur la Guénisa du Caire. Donc qu'est-ce qu'une Guénisa, donc, dans la vie quotidienne, pourrait-on dire, des communautés juives?
Alors une Guénisa, en fait, c'est un dépôt rituel. Au départ, c'est des textes qui portent le nom de Dieu, donc qui sont considérés comme saints et qu'on ne peut pas jeter ou brûler comme n'importe quoi, et qui vont donc être soit enterrés dans une tombe spéciale au cimetière, soit déposés dans une sorte de cachette. Donc Guénisa, le mot, ça veut dire archive ou trésor. Et on va voir que par extension, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être concernées par la Guénisa. Donc on va avoir tous les textes à caractère religieux, les textes écrits avec des caractères hébraïques, quelle que soit la langue, puisque là, par exemple, on a beaucoup de textes en yiddish, qui est une langue germanique, on pourra avoir du judéo-arabe. On va avoir aussi des objets. Et des objets qui vont être mis là parce qu'on va considérer qu'ils ont été sanctifiés par leur usage. Et alors là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On voit que l'interprétation va pouvoir être variable d'un lieu et d'un endroit à l'autre. Et donc, on va vous trouver des choses assez étonnantes. Et on va voir qu'il peut y avoir un décalage dans le contenu des guénisotes entre ce qu'on s'attendrait d'un point de vue, je dirais, halakhique strict de la loi juive et les pratiques réelles au quotidien.
Alors, cette Guénisa, ce qui est surprenant, c'est que la synagogue dans laquelle on l'a trouvée date de la période du Second Empire.
Oui, tout à fait.
1865-1867. Mais dans une sorte de faux plafond, pourrait-on dire, entre deux planchers de cette synagogue, on trouve, en faisant des travaux, puisque cette synagogue était désaffectée, que la municipalité voulait lui donner un nouvel usage, eh bien, on trouve donc une sorte de dépotoir, pourrait-on dire, entre les deux planchers. Il y a là des textes, comme vous l'avez dit, des livres, il y a des tissus, il y a tout un tas de choses qui sont enserrées entre ces deux planchers. Mais c'est ce qu'on retrouve ne date pas des années du 19e siècle, mais bien auparavant, c'est-à-dire qu'en fait, on a transporté visiblement d'une autre synagogue. Cette Guénisa a été transportée jusque dans cette synagogue nouvellement construite au 19e siècle.
Oui, justement, c'est ce qui nous a beaucoup étonnés, puisqu'on a essayé d'avoir une approche archéologique et d'essayer de comprendre la constitution de ce dépôt, puisque c'était une première en France. Et en fait, on a été très déroutés de se rendre compte que tout était mélangé. Et en fait, il y avait effectivement une petite synagogue précédente dans une maison individuelle qui aurait dû être vendue pour financer les travaux. Et puis finalement, on s'est rendu compte que la vente n'avait jamais eu lieu. Donc l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'on a donc transporté cet ancien dépôt à une date qui est autour de 1900, puisque les éléments les plus récents qu'on a trouvés dataient de 1894, et c'était des éphémères, donc des calendriers ou des périodiques, et après plus rien. Voilà.
Et donc on a remis un plancher dessus.
Et a priori, de toute façon, tout a été mis en une seule fois, puisque c'était effectivement sous un plancher, au-dessus du plafond de la salle de prière. Il fallait enlever au pied de biche, donc c'était pas quelque chose qu'on s'amusait à ouvrir tout le temps. Et c'était dans un état mais de chaos indescriptible, c'est-à-dire que vous pouviez trouver un élément d'un livre à un endroit et un autre élément du même livre 10 mètres plus loin, et vous aviez des tissus qui étaient totalement emmêlés. Donc on voyait effectivement ce désordre. Et d'ailleurs, les ouvriers, c'est assez drôle, quand ils ont vu, évidemment, ils n'ont pas imaginé que c'était une Guénisa, et ils s'apprêtaient d'ailleurs à tout emmener à la déchetterie, ils ont dit, ah tiens, c'est pas bête, ils ont pris ça pour un système d'isolation.
Oui. Donc, cette isolation est composée d'une certaine façon donc de vieux papiers. Les plus anciens remontent au XIVe siècle.
Il y a des parchemins. On a un petit fragment de parchemin, effectivement, qu'on a daté du XIVe siècle, tout petit, et qui est remarquable.
Un Maïmonide, c'est ça?
C'est ça. C'est-à-dire que c'est une compilation de règles de commerciales de Maïmonide. Et donc, l'intérêt. Alors, qui, d'après l'écriture, on peut dire qu'il vient de l'ère rhénane, on ne peut pas en dire plus, et donc qui témoigne la réception, donc quand même très précoce, de l'œuvre de Maïmonide, donc qui est quand même un savant espagnol du XIIIe siècle, et donc dans cette ère géographique, et aussi de l'intérêt pour ces sujets-là, qui, comme par hasard, il parle de vente de grains et de chevaux, de bestiaux, sont les activités économiques principales des Juifs alsaciens.
Alors, donc, il y a, ça, c'est, le document le plus ancien que vous ayez retrouvé, mais la majorité de ce que vous retrouvez date du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle.
Alors, on a, la grosse majorité, ça va être XVIIIe et XIXe siècle, mais pour les imprimés, par exemple, le plus ancien livre qu'on ait pu identifier, c'est un ouvrage qui a été imprimé à Prague en 1529. Voilà. Et pour les textiles, on a donc une bandelette de Torah datée de 1614, ce qui, à l'échelle de ce qui est conservé aujourd'hui, est extraordinairement tôt. Elle doit faire partie des 10 plus anciennes qu'on puisse connaître. Et d'ailleurs, la plus ancienne aujourd'hui connue au monde, qui date de 1590, vient également d'une Guénisa.
Oui, et donc il n'y a pas simplement ce que vous avez trouvé en Baclaville, qui est déjà dans Baclaville, qui est quelque chose d'assez exceptionnel en l'occurrence, mais d'autres synagogues ont livré leurs secrets, pourrait-on dire, et vous exposez aussi d'autres objets qui sont liés à cela.
Oui, alors quelques-uns. Alors il se trouve que malheureusement, il faut reconnaître que la France n'est pas très en avance sur ces recherches-là.
Ça, c'est vrai.
Puisqu'on a à peu près déjà 70 guénisotes qui avaient été étudiés en Allemagne. On a eu aussi beaucoup de recherches en République tchèque. Et il se trouve qu'il y avait deux synagogues, donc, qui avaient été désaffectées dans les années 80-90. Et à l'époque, ça n'intéressait absolument personne en France. Donc, c'était à Mackenheim et à Bergheim. Et donc, elles étaient parties en Allemagne pour être étudiées par des professeurs allemands et qui les ont donc restituées. Donc, ils ont un peu travaillé dessus. Et elles sont revenues en France. Et donc, on a. Alors, c'est des dépôts qui sont moins importants, moins complets, mais qu'on a présentés en complément pour avoir une typologie plus large et aussi pour montrer qu'il y avait des différences d'un endroit à l'autre. Parce que, visiblement, selon le village, selon l'histoire du village, mais aussi peut-être selon les personnes qui contrôlent ce qu'on met dans la Guénisa, on n'a pas forcément le même contenu.
Et bien, alors, dans ce dépotoir, cet endroit où on va donc déposer tous les objets qui ont eu lieu, qui ont très haut culte ou qui portent le nom de Dieu, en l'occurrence, c'est dans cette Guénisa, on trouve aussi beaucoup de choses qui tiennent à la vie quotidienne. Et on
Exactement.
Se demande pourquoi ils sont placés là.
Alors, il y a plusieurs choses. Alors, il y a déjà, je vous parlais de ces objets sanctifiés par leur usage. Déjà, donc, c'est sujet à des interprétations qui peuvent être amusantes. Je donnerai un exemple. Les juifs religieux portent donc normalement des franges aux quatre coins de leurs vêtements. Donc, ils portent pour ça un espèce de petit châle. On ne retrouve pas les franges, mais les tissus qui ont servi à porter ces franges vont être déposés dans la Guénisa, ce qui n'est absolument pas une obligation religieuse. Et par contre, c'est extraordinaire parce qu'on va trouver des tissus imprimés en Alsace au début du 19e, à fleurs, à carreaux, qui du point de vue de l'histoire du textile sont intéressants, et des choses qu'on ne conserve jamais dans les musées. Bon, mais là, ils ont été sanctifiés par leur usage. De la même manière, on a des emballages de bougies. Mais on a aussi le fait que les gens mettent un peu n'importe quoi comme marque-page, enfin comme signet, donc des billets de train, des courriers, des archives. Et puis visiblement, dans certains cas, on pense que ça a pu être intentionnellement, les gens ont pu déposer des choses qui leur tenaient,
pour
éviter une disparition. Et pour nous, on a là une dimension universelle peut-être, et on se dit que le fait de considérer que quelque chose peut avoir une valeur et qu'on ne peut pas être détruite comme ça, c'est quelque chose qui dépasse largement la culture juive.
Alors, Claire de Conce, parlez-nous des mapotes, parce que c'est une des découvertes les plus importantes, justement, que vous ayez faites dans cette synagogue dans Baclavie, dans cette Guénisa. Qu'est-ce que les mapotes et pourquoi ils nous disent quelque chose, justement, de cette vie quotidienne, pourrait-on dire, des communautés juives d'Alsace?
Alors, une mapa au singulier, mapote au pluriel, donc c'est une bandelette de Torah, donc c'est un textile qu'on peut trouver un peu partout dans le monde juif. La spécificité spécificité donc là de ce qu'on trouve à Dambard-la-Ville et à Mackenheim. Donc c'est une tradition rhénane qui est apparue probablement au XVe siècle, qui consiste à fabriquer cet ornement de Torah à partir d'un lange de circoncision.
En lin.
En lin. Alors oui, à l'époque c'était un lange en lin, donc une pièce carrée qu'on a coupée en 4 morceaux, cousue bout à bout. Donc ça nous donne une bandelette qui peut faire 2,50 m à 3 m de long. Et cette bandelette, donc, elle va être brodée, puis après peinte, chronologiquement, avec le nom de l'enfant, alors par sa filiation, donc par le nom de son père, sa date de naissance, il est né sous une bonne étoile, et la bénédiction qui a été récitée à l'issue de la cérémonie et qui est un peu un programme de vie. Donc ça va être qu'il grandisse pour la Torah, c'est-à-dire l'étude, la roupa, c'est-à-dire le mariage, et les bonnes actions. Et ce qui est très touchant dans ce rituel, c'est que l'enfant donc va apporter lui-même la mappa à la synagogue. Ça va être son premier, son introduction dans la communauté. Alors, il y a des variantes, mais dans la région, c'est généralement à l'âge de 3 ans, au moment où il commence à parler. C'est aussi le jour de sa première coupe de cheveux. Et donc, l'enfant va amener cette bandelette, il va l'enrouler autour du rouleau. Et d'ailleurs, plus tard dans sa vie, par exemple, quand il va faire sa... quand il va devenir majeur d'un point de vue religieux, donc bar mitzvah, ou la veille de son mariage, on va ressortir cette mappa. Et cette mappa, donc, c'est un objet vraiment très personnel. Et c'est un objet qui est vraiment une forme d'art populaire avec une très très grande de liberté dans les motifs, dans les sujets représentés.
Oui, on y trouve des scènes de chasse par exemple, on y trouve des scènes qui sont assez énigmatiques. J'ai sous les yeux donc une scène qui se passe auprès d'un puits à Balancier. Il y a tout un tas de scènes qui s'y déroulent. On voit des personnages sous un toit, un homme et une femme.
Oui, tout à fait. Alors les personnages sous un toit, c'est justement le dé de mariage, la fameuse roupa, symbole du mariage. Et effectivement, c'est pas toujours pour un œil moderne, c'est pas toujours évident à interpréter au premier abord, puisque par exemple le puits, il a fallu que j'en voie plusieurs pour comprendre que c'était donc le signe du verso, littéralement verso. Et dans certains cas, puisque là on a l'intérêt de cette découverte, c'est qu'on en a donc un très très grand nombre, puisque à Dambard-la-Ville on en avait 250. Pour vous donner un ordre d'idée, le Mage en a une cinquantaine, musée d'art et d'histoire du judaïsme, le musée alsacien en avait 120. Donc c'est énorme. Et donc on a un peu tous les... On n'a pas eu de tri. Donc en fait, on en a des extraordinaires. On en a avec des traces d'emploi de fils métalliques, avec des gravures qui sont... des motifs qui sont manifestement inspirés de modèles savants de gravures et d'autres extrêmement populaires.
Et donc effectivement, c'est ce mélange qui donne sa saveur, pourrait-on dire, même historique et archéologique, à cette découverte de cette Géniza. Comme d'ailleurs, vous évoquiez cela tout à l'heure, Claire de Combes, la variété des ouvrages qu'on peut y trouver, des ouvrages qui viennent de Prague, d'autres qui viennent de Francfort, qui, bien avant que de devenir la capitale moderne du livre, était déjà la capitale du livre pour toute cette région rhénane. Et on y trouve effectivement beaucoup d'ouvrages qui sont édités à Francfort, au XVIIe ou au XVIIIe siècle.
Alors tout à fait, parce qu'au départ, donc, les impressions hébraïques occidentales, les imprimeries sont souvent travaillent plutôt pour les humanistes chrétiens. Et donc les juifs ont du mal, c'est pas évident pour eux de se procurer des livres, donc ils sont obligés d'aller très loin, Cracovie, Prague, Venise, etc. Et globalement, de toute façon, dans le monde germanique, donc au XVIIIe siècle, c'est surtout Amsterdam et effectivement l'Allemagne.
Et même si Metz...
Metz à partir de 1764, mais on n'en a pas énormément. Et de toute façon, ce qu'il faut remarquer, c'est que globalement, jusqu'à la Révolution, on est vraiment dans une culture qui est exactement la même que celle qu'on pourrait trouver outre-Rhin. Et par contre, au 19e, là, les Juifs ont été émancipés, vont devenir français, et là, on va avoir une histoire différente et on va commencer à avoir une production locale à destination donc, de ces clientèles juives.
Et puis, un des grands intérêts de cette exposition donc, qui vient d'ouvrir au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, Claire de Combes, c'est tout ce qui tourne autour, justement, de la pratique de la langue yiddish. Il y a beaucoup de choses qui sont découvertes à travers une découverte comme celle-ci d'une Géniza en Alsace, parce qu'effectivement, on voit comment le yiddish naît, se développe, progresse, etc., tout au long des siècles qui vous intéressent, c'est-à-dire en gros entre le XVIIe et le XIXe siècle.
Alors là, bon, dans le catalogue, il y a un article d'Astrid Stark qui est beaucoup plus précis, parce que c'est une question quand même très pointue sur le plan linguistique. Ce que je peux dire, c'est que nous, on a été vraiment très surpris de voir ce mélange et ce passage incessant d'une langue à l'autre. C'est-à-dire que vous avez l'hébreu, qui est la langue sacrée, la langue de Dieu, et puis vous avez la langue du quotidien, donc qui est longtemps le yiddish, qui est donc une langue essentiellement, enfin vraiment une langue germanique, mais on peut avoir aussi l'emprunt aux langues du quotidien, le français, l'allemand, l'alsacien. Et surtout, ce qui est amusant, c'est que l'emploi de caractères hébraïques ne garantit pas qu'on est dans une langue juive. On peut avoir de l'allemand ou des textes avec des mots français écrits en caractères hébraïques.
Ce qui est quand même tout à fait extraordinaire dans cette découverte, c'est qu'on se dit, puisqu'il y en a une à Dambach-la-Ville qu'on a découvert très récemment, c'était en 2012, puisqu'il y en a d'autres qui ont été découvertes dans les années 80 et 90, on se dit il doit y en avoir encore d'autres. C'est-à-dire qu'on commence à imaginer qu'il y a là, comme vous le disiez avec le titre de cette exposition, un héritage inespéré, et que si on faisait un travail, pourrait-on dire, de recension des lieux de culte juifs dans l'ensemble de notre pays, par exemple, on pourrait peut-être presque systématiquement imaginer qu'il y a d'autres endroits et d'autres découvertes à faire.
Il y a des guénisotes de ce type sous des planchers, dans des combles, il y en a probablement d'autres. Et puis il y a aussi, moi, ce que j'appelle des pseudo-guénisotes, c'est ce que je cherche d'ailleurs en premier quand je rentre dans une synagogue, quotidiennement dans mon travail, qui est un dépôt dans toute la région Grand Est, qui est de trouver le vieux placard à balai, le coin du grenier, où on va retrouver remiser les choses les plus intéressantes. Alors, c'est sûr qu'il y a d'autres découvertes à faire, et de toute façon, cette Guénisa, c'est un miracle qu'elle ait été sauvée. C'est vraiment parce que l'historienne du village, qui est vigneronne, passait par là, quand les ouvriers étaient en train de tout emmener à la déchetterie, et qu'elle est intervenue, et qu'elle a sauvé ce qu'elle a pu dans des sacs à poubelles avant de faire appel à la DRAC, et puis donc,
par la suite, la direction des affaires culturelles.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un miracle. Et donc, justement, un des objectifs de cette exposition, c'était vraiment de sensibiliser tous les propriétaires de synagogues, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont en main privée ou qui appartiennent à des communes, mais aussi les communautés juives, parce que pour les communautés juives, jusqu'à présent, ça n'avait aucun intérêt. C'était vraiment des détritus. Et donc, c'est de sensibiliser à l'intérêt patrimonial, mais en même temps de montrer que ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est un travail qui est quand même très sale, très fatigant, parfois dangereux. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça n'importe comment. Et donc, on voulait vraiment sensibiliser la France, puisqu'on pense qu'il y a, enfin, il y a quand même, c'est un sujet qui devrait être davantage pris en compte. Et il faudrait que chaque fois qu'il y a des travaux dans un édifice ou une vente, on se pose effectivement sérieusement la question.
Alors là, vous avez fait ce travail pour une exposition, mais j'imagine qu'il y a peut-être ensuite un travail d'édition qui puisse être fait. Le catalogue est absolument superbe, il faut le dire à nos auditeurs, il faut absolument, s'ils vont voir cette exposition ou même s'ils ne peuvent pas aller la voir, qu'ils se procurent, s'ils s'intéressent à ce sujet-là, le catalogue qui s'appelle donc Héritage inespéré.
Alors, moi j'ai écrit quelques articles et puis je pense que c'est un sujet qui est loin d'être épuisé et qui pourra aussi, d'ailleurs, un des objectifs donc de ce travail. Il faut savoir que tous les objets donc de la Guénisa de Dombard ont été donnés à la ville de Strasbourg. Et donc l'objectif, in fine, c'est que tous les chercheurs puissent s'approprier ce contenu, puisqu'il y a un contenu, enfin, en espérant que ça va enrichir les recherches historiques en la matière. Et donc dans ce catalogue, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est comme il n'y avait pas de publication jusqu'à présent en français, on a voulu essayer de concilier en fait différents publics, à la fois de faire un ouvrage attrayant, mais en même temps, par exemple, on a des articles sur les expériences à l'étranger, et on a des annexes qui s'adressent davantage à un public plus initié et de chercheurs, puisque moi j'ai été la première ravie de trouver donc les contributions de mes collègues étrangers.
Merci beaucoup Claire de Combes. Cette exposition dure longtemps, puisqu'elle dure jusqu'à la fin de l'année 2017, ou peut-être
exactement,
même au début de l'année
2018. C'est 28 janvier 2018. 18, je veux dire.
Voilà. Oui. Et donc ça veut dire que tous ceux qui seraient intéressés par cette question-là peuvent prendre leur temps, s'ils ne sont pas parisiens en particulier, pour venir voir cette exposition.
Juste rajouter en plus que l'accès est gratuit et que cet été, c'est dans une cave où il fait extrêmement beau.
du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, l'ancien hôtel Saint-Aignan. Merci beaucoup Claire de Combes d'être venue nous présenter donc cette découverte inespérée de la Guénisa de Dambach-la-Ville.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Thank you.
Bonjour Patrick Garcia.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en histoire à l'université de Cergy-Pontoise et à côté de vous se trouve Thomas Baillargeon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant, travaillez pour l'instant donc en tant que chercheur sur un projet, tous les deux, un projet tout à fait exceptionnel dont il nous fallait parler à la Fabrique de l'Histoire puisqu'il prend la succession lointaine, je l'ai dit en ouverture de cette émission, de cette grande enquête qui avait été menée par Jacques et Mona Ozouf au début des années 60 sur les instituteurs de la Troisième République, donc pour essayer de comprendre qui étaient ceux qu'on a appelés parfois les hussards noirs de la République. Là, il s'agit des professeurs d'histoire et de géographie, Patrick Garcia.
Oui, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que l'histoire de l'enseignement était essentiellement fondée jusqu'à présent sur des sources officielles, les programmes, les instructions ministérielles, sur les manuels.
C'est pour ça que nous avons lancé à la Fabrique de l'Histoire un feuilleton qui s'appelle la Fabrique de l'Histoire scolaire pour voir comment on enseigne l'histoire aujourd'hui dans les classes.
Absolument. Et si aujourd'hui on a beaucoup avancé sur ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a des enquêtes, en revanche, sur toute la partie, sur toute la période qui va de 1945 à une dizaine d'années, on n'a que des documents de type administratif. Et donc l'idée c'est de faire de l'histoire de vue d'en bas et d'appeler les enseignants d'histoire et géographie à la retraite, proche de la retraite, à témoigner de la façon dont ils ont vécu leur métier, dont ils ont conçu leur discipline, dont ils ont conçu les rapports de leur discipline avec la vie citoyenne, dont ils ont pensé que les élèves concevaient leur discipline. Donc voilà, c'est l'idée, c'est de constituer cette mémoire disciplinaire.
On connaît, Thomas Baillargeon, les travaux qui ont été faits depuis longtemps, par exemple par les archivistes et historiens de la mission du ministère des Finances auprès, par exemple, auprès des fonctionnaires du ministère des Finances pour pouvoir raconter leur expérience, leur vie et pour pouvoir mettre peut-être aussi un peu de vie, justement, dans la façon dont on envisage les décisions telles qu'elles se prennent, dont elles sont appliquées sur le terrain. C'est aussi un des objets de cette enquête que d'essayer de comprendre comment se passe l'application des directives ministérielles, les travaux en commun entre différents professeurs, la façon dont on envisage le renouvellement pédagogique autour de ce travail de l'histoire, de professeur d'histoire et géographie, Thomas Baillargeon.
Oui, alors il y a eu des évolutions au cours du XXe siècle, c'est évident. Il y a eu des... ce qu'on cherche à savoir, c'est comment les professeurs, d'une part, se sont venus à l'histoire-géographie, comment et dans quel état d'esprit ils ont façonné leurs cours, avec quels outils, quelles étaient leurs pratiques enseignantes. Mm-hmm. Donc, effectivement, il y a tout un panel large de questions. Et l'idée, quand même aussi, c'est de savoir comment ils ont noué, lier cette vocation avec leur rôle dans la cité.
Oui, c'est-à-dire leurs engagements, soit avant de devenir professeur, leurs engagements lorsqu'ils étaient professeurs, s'ils ont été syndicalistes ou pas, engagés dans les partis politiques, etc., etc.
Exactement.
Et tout cela, vous pratiquez comment ? Parce qu'il faut faire une enquête. Faire une enquête, ça veut dire établir un questionnaire, j'imagine.
C'est ça.
C'est un questionnaire que vous avez établi, donc avec Patrick Garcia, Thomas Baillargeon.
Oui, on a établi un questionnaire tous les deux. D'une part, un questionnaire qui parle dans un premier temps de leur vie professionnelle et de la manière dont ils se sont représentés cette vie professionnelle. Donc avec leur pratique, effectivement, l'enseignement, la fabrique d'un cours, mais aussi à la fin, quel bilan ils tirent de tout cela.
Oui, par exemple, j'ai quelques-unes des questions. Les conditions dans lesquelles vous prépariez vos leçons, vos supports et outils privilégiés. Questions ayant suscité chez vous un intérêt particulier. La place de l'histoire locale, la place de l'histoire nationale, la place de l'histoire du monde, etc., etc. Tout cela, donc, c'est un questionnaire assez long que vous avez établi, Patrick Garcia, avec Thomas Baillargeon, et qui a pour vocation de laisser ouvertes aussi les possibilités d'expression de chacun et de chacune qui voudrait participer à cette enquête.
Oui, très exactement. C'est-à-dire que on peut le concevoir comme un questionnaire et répondre aux questions. Mais on peut aussi le concevoir simplement comme une espèce de guide où on dit nos centres d'intérêt. Et nous, ce qu'on souhaite profondément, c'est avoir des autobiographies professionnelles. C'est-à-dire
on demande aujourd'hui aux professeurs qui passent, comme on dit, leur HDR, habilitation à diriger des recherches, une égo-histoire. On leur demande donc de raconter comment ils en sont venus à pratiquer tel et tel sujet en tant qu'historien, par exemple. Professeur, vous voudriez que effectivement ces professeurs d'histoire-géographie du secondaire fassent un peu la même chose, c'est-à-dire expliquent le tissage intime entre leur vie et les sujets qu'ils ont enseignés, la façon dont ils les ont enseignés, c'est cela ?
Oui, absolument. Leur formation, il s'agit de recueillir un matériau. Hein. Et vous avez cité les enquêtes hein, au ministère des Finances, aux douanes. Hein, c'était auquel avait contribué quelqu'un comme Philippe Lejeune. Hein. C'est quelque chose d'important comme modèle. Je veux dire, ils ont réussi à constituer une mémoire du métier. Hein. Le problème de l'éducation nationale, c'est qu'il n'y a pas de mémoire du métier. La seule mémoire du métier sont les textes officiels. On en oublie les acteurs. Et donc l'idée, c'est effectivement de rassembler le point de vue des acteurs, l'expérience des acteurs, hein, pour que cette histoire, elle ait un peu de l'histoire qu'on va faire, elle ait un peu de chair, hein, qu'elle soit une histoire au plus près des
à la première personne,
à la première personne, absolument.
Thomas Baillargeon.
Oui, c'est ça. Pour paraphraser Pierre Nora, il disait justement, c'est expliciter le lien entre l'histoire qu'ils ont enseignée puis l'histoire qu'ils les ont fait.
Mmh. Et donc cette façon de faire, c'est une sorte aussi d'appel que vous venez faire ici au micro de la Fabrique de l'Histoire. Qu'est-ce que vous espérez de cela ? C'est-à-dire, il faudrait avoir une centaine, 200, 500, 1000, je ne sais, contributions pour pouvoir avoir une masse critique. Vous aurez beaucoup de travail pour pouvoir le dépouiller tout cela, Thomas Baillargeon. Mais qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans ? Ça peut être aussi quelques dizaines de témoignages très très forts et très ressentis, des autobiographies professionnelles qui peuvent vous servir justement pour un travail d'analyse justement de cette longue histoire de l'enseignement de l'histoire-géographie en France.
Des motivations archivistes, c'est-à-dire qu'on constitue une communauté mémoire, Patrick Garcia l'a rappelé, mais on cherche évidemment à avoir le plus de témoignages possibles qui soient représentatifs de ce qu'on peut être, de ce qu'ont pu être les professeurs entre 1945 et ces 10 dernières années. C'est pour ça que l'appel s'adresse aux professeurs à la retraite ou proches de la retraite, à 10 ans de la retraite à peu près.
Patrick voilà. Garcia.
Oui, je crois que la question, on ne s'est pas fixé d'objectif de nombre. Mm-hmm. Hein. C'est un appel large. Et je crois que effectivement, on pourra l'envisager sous plusieurs modalités. Alors, je peux peut-être dire un mot de l'exploitation, mm-hmm. hein, puisque l'exploitation, elle va être plurielle. D'une part, on va demander une autorisation de reproduction pour ceux qui le souhaitent. Donc, on envisage des modalités de diffusion,
de publication,
qui peut se faire sous la forme de citations thématiques ou sous la forme d'application, peut-être un concours, je ne sais pas, quoi, ou en tout cas un moyen de diffuser ces expériences. Hein. Et d'autre part, bon, bah,
il y a la possibilité d'anonymiser sa réponse.
Absolument.
On n'est pas obligé de donner son.
On est obligé de rien. Il faut le communiquer aux chercheurs, et puis après, il y aura divers stades de diffusion qui seront, convenus avec les auteurs. Mais voilà, l'idée, c'est pas d'en avoir 10 000 ou d'avoir l'exhaustivité. On sait très bien aujourd'hui que plusieurs points de vue, 10, 20, 30, peuvent être très informatif. Hein. Donc, il y aura d'ailleurs plusieurs types d'exploitation. Il y a la thèse de Thomas, mais il y aura aussi, on va constituer un groupe de travail hein, pour articuler ça. Vous voyez aussi, hein, penser que en histoire, on faut sortir de l'idée que la thèse est un travail solitaire, mais qu'on peut créer des groupes, discuter, hein, qu'on peut s'appuyer. Hein, et il y aura beaucoup de matériaux.
Thomas Baillargeon, votre thèse donc commence tout juste. Il y a toujours ce qu'on attend d'une thèse et puis ce qu'on va avoir à la fin. Alors vous ne pouvez pas savoir ce que vous aurez à la fin, hein, une fois que cet appel aura conduit des dizaines de gens à vous écrire, en l'occurrence de professeurs d'histoire-géographie. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous attendez d'un tel travail ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous espérez ? Ce que disait tout à l'heure Patrick Garcia, c'est remettre un peu de chair, un peu de personne, de première personne, pourrait-on dire, dans une histoire de l'enseignement qui est généralement faite à partir de textes officiels et donc un peu désincarnés.
Ce qu'on se préfigure du passé. Il y a plusieurs choses. Patrick Garcia a rappelé quelque chose qui était important, c'est qu'on va exhumer des trésors sociaux d'une boîte noire de l'histoire de l'enseignement. Aujourd'hui, il y a des paroles qui sont tues. Et l'idée, il y a quand même une urgence, c'est que c'est des personnes quand même qui sont à la retraite.
C'est collecter cette mémoire, cette histoire.
Collecte d'abord cette mémoire, et puis bien sûr, on a des objectifs aussi, pour ma thèse et puis dans le travail collectif dont a parlé Patrick Garcia, c'est-à-dire savoir ce que ces personnes-là nous parlent de l'idée aussi républicaine, de l'enseignement de l'histoire, de la géographie, de l'éducation civique, savoir comment ils ont vécu aussi les grandes transformations, l'arrivée du collège unique, les années Mitterrand, la réforme Abi, etc.
Voir plus récemment les débats autour de l'enseignement de l'histoire au moment où Nicolas Sarkozy est président de la République, par exemple, Patrick Garcia.
Par exemple, oui, c'est, l'idée commence à résonner, mais vu à travers le point de vue des acteurs, hein, comment ils ont vécu les modifications de programme, comment ça s'est joué dans les classes, hein, cette pluralité de points de vue, cette pluralité aussi de conception de ce que c'est enseigner l'histoire, et puis peut-être aussi la façon dont ils ont perçu ou non, hein, une évolution du regard des élèves sur cette discipline. Hein, là, il y a des tas de choses en fait qu'on ne connaît pas. Hein. C'est effectivement.
Il faudrait faire après nous élèves des classes des professeurs d'histoire-géographie pour pouvoir avoir le deuxième côté, savoir comment ça a été reçu leur enseignement par les élèves.
Non, mais effectivement, le point de vue des élèves serait tout à fait intéressant. Il y a eu Jean Leduc a écrit une histoire des élèves, mais pour l'instant, on va se cantonner aux enseignants. Déjà, essayons d'avoir cette mémoire et qu'elle ne se perde pas. Je crois que c'est important que pour avancer dans cette histoire de ce qu'a été l'enseignement, qu'on ait le point de vue des acteurs.
Alors, on a déjà des gens qui nous tweetent qu'ils sont très intéressés par ce travail de mémoire du métier pendant que nous sommes en train de discuter. Donc, vous aurez sûrement quelques réponses après cette discussion. Pour ceux qui veulent vous écrire et qui veulent déjà entamer ce travail, vous faites comment, Thomas Bayergeau?
Alors, ils peuvent nous écrire déjà une boîte mail, nousprofesseurshistoiregeo@gmail.com.
Alors, nous, professeurs au pluriel histoire-géo, on mettra cela sur le site de la Fabrique de l'Histoire, @gmail.com.
Et sinon, ils peuvent écrire sur cahier qu'ils enverront à l'adresse de l'IHTP.
Hein, l'Institut d'Histoire du Temps Présent, 5961 rue Pouchet. Donc POU, exactement. CHET 75849, Paris CEDEX 17. Donc je répète, 5961 rue Pouchet, 75849, Paris CEDEX 17. On l'écrit directement à votre nom, Patrick Garcia?
Oui, absolument, je vais servir de boîte aux lettres.
Voilà, donc pour l'envoi de ces témoignages, si ce sont des témoignages plus conséquents, et donc comme vous le dites, des cahiers ou des sortes de mémoires de professeurs d'histoire, vous le faites de cette manière-là. Sinon, si c'est plus bref, eh bien... Vous pouvez écrire à l'adresse email nous professeurs au pluriel histoire géo tout attaché @gmail.com. Oui,
Patrick. Et donc on prend contact et on enverra immédiatement le questionnaire, à moins qu'il puisse être mis en ligne sur le site. Mais je sais pas, il est peut-être important.
On peut le mettre en ligne si vous voulez. Ça sera quelque chose qu'on fera même dans la journée si vous nous le confiez. Il n'y a aucun problème pour qu'on puisse le faire. Et puis ainsi, avec les vacances à la fois de la Fabrique de l'Histoire et les vacances scolaires, ceux et celles qui voudraient s'adonner à remplir justement ce questionnaire pourront le faire tranquillement avant la rentrée du mois de septembre. La fin de cette expérience, vous imaginez qu'il faille la faire jusqu'à quand, Thomas Bayergeon? Si vous voulez conclure votre thèse, il faudrait que ça vienne assez vite.
Un an de collecte.
Et vous nous donnerez les résultats en primeur, j'espère, à la Fabrique de l'Histoire, puisque nous avons été les premiers à l'annoncer ici même. Merci à vous, Thomas Bayergeon. Merci à vous, Patrick Garcia. Nous sommes au téléphone pour finir cette émission avec Franz Olivier. Bonjour, Franz Olivier.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous êtes fondateur d'une maison d'édition que nous aimons bien à la Fabrique de l'Histoire, qui s'appelle la maison d'édition Anacharsis. Et cette maison d'édition a la particularité d'avoir republié beaucoup des ouvrages et des traductions d'un historien dont on a appris la disparition cette semaine. Il s'appelait donc Régis Boyer. Et pour tous ceux qui se sont intéressés à un moment ou à un autre à l'histoire des pays du nord de l'Europe et à l'histoire de l'Islande, ils connaissent donc ce spécialiste du monde scandinave qui est décédé à l'âge de 84 ans. On est un peu étonné, étant donné la notoriété de Régis Boyer, de le trouver dans votre catalogue. Et pourtant, c'est une histoire assez intéressante, François-Olivier, que de voir qu'il vous a confié la plupart de beaucoup de ces traductions de sagas légendaires islandaises, en particulier à vous qui démarriez comme jeune éditeur dans les années 2000.
Oui, oui, on a travaillé avec Régis Boyer en 2005-2006, c'est vrai. À cette époque-là, on était une jeune maison d'édition, que nous sommes toujours par ailleurs, et c'est par un ancien élève à lui, en fait, Éric Guillemant, qu'on a été en contact avec Régis Boyer, qui nous a proposé, en fait, d'initier des traductions inédites de toute une série de sagas islandaises, qu'on appelle les sagas islandaises légendaires, hein, c'est-à-dire qui illustrent en réalité par les textes l'imaginaire viking. Donc on a commencé avec la saga de Rolf Santer à l'époque, c'était, et puis ensuite on a fait une vingtaine de titres ensemble jusqu'à en 2011 publier un recueil qui s'appelle la saga légendaire islandaise, où il y a Jean Renaud qui a participé également avec nous dans cette entreprise. Mais voilà, c'était, je pense que Régis Boyer avait une telle volonté de diffuser ses travaux, ses connaissances sur le monde scandinave dans bien de ses aspects, qu'il est par ailleurs, et puis comme c'était un personnage extrêmement entier aussi, de caractère très fort,
ouais.
Il a jamais eu véritablement de scrupules à travailler avec des petites structures, et puis ensuite le travail le satisfaisant, et puis nous satisfaisant également, on a prolongé notre collaboration pendant une douzaine d'années.
Oui, on voit d'ailleurs dans la notice qu'il a été, enfin l'article qui lui a été consacré par Pierre-Jean Katinki dans Le Monde, notice nécrologique de Régis Boyer, donc disparu cette semaine. On voit entre les lignes effectivement que c'était un personnage un peu entier. Régis Boyer est décrit comme un passeur exigeant de cette littérature méconnue qu'il défendait avec un enthousiasme abrupte. Effectivement, quand on voit dans un texte comme celui-ci exigeant et abrupt, on se dit que effectivement ça peut être quelqu'un peut-être d'un peu rude, mais vous avez eu de très bonnes relations avec celui qui se voulait aussi, dit Pierre-Jean Katinki, un traducteur d'une stupéfiante plasticité, sachant que verser dans une langue romane une création qui n'en relevait pas tenait de la gageure, en l'occurrence, François-Olivier.
Oui. Oui, c'est vrai que c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un personnage entier qui avait un caractère extrêmement ferme, pour le moins, et en même temps qui avait aussi, enfin moi c'est comme ça aussi que je m'en souviens, qui avait un humour qui nous a permis de nous amuser aussi pas mal le temps de notre collaboration. Et puis par ailleurs, c'est vrai que sur la langue, il avait comme ça une façon de transmettre la langue des sagas bien particulière, un petit peu. De façon martelée, en quelque sorte, comme on pourrait dire qu'on martèle un métal pour essayer de lui donner à la fois du relief et des aplats. Je pense qu'il essayait, qu'il luttait en permanence avec cette langue de force spécifique, et que ça l'a conduit à avoir, pour une part en tout cas, une certaine, d'abord un aplomb par rapport à cette langue, et puis aussi une souplesse de façon à jouer sur les écueils et les esquives auxquelles il était astreint par la complexité de cette langue, donc des 13e et 14e siècles islandaises.
Et d'une certaine façon, il faut lui rendre hommage aussi, parce que il a rendu accessible, pourrait-on dire, tout un corpus de textes qui n'était pas connu auparavant, et qu'il a donc permis de faire découvrir à un public français qui a d'ailleurs été tout à fait... il y a eu un grand engouement autour de ses travaux, autour de ses sagas.
Oui, alors il faut dire qu'il a, il a pas seulement travaillé sur les sagas, il se trouve qu'avec nous c'était les sagas légendaires, en plus sur lesquelles on a travaillé. Il a donné, alors je pense qu'il a fait une envie, enfin presque... Ouais, irrépressible en quelque sorte de donner à lire les textes qu'il rencontrait et donc de les diffuser le plus largement possible. Je pense que c'était un travailleur forcené, qu'il a énormément produit, traduit, parfois peut-être au détriment d'autres traducteurs qui auraient éventuellement voulu aussi travailler sur tel texte. Bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'il était aussi véritablement animé par un désir de diffuser sa connaissance. Je dis sa connaissance parce que c'était une connaissance qui lui était propre également, même si elle était profonde, c'était le travail de toute une vie, c'était une connaissance qui lui était propre du monde scandinave. Du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, puisqu'il a aussi bien traduit Halldór Kiljan Laxness, qui est le prix Nobel islandais en 1953. Hein. Donc je pense qu'il avait aussi un champ d'investigation. Il travaillait aussi bien sur Kierkegaard que sur Snorri Sturluson ou des sagas du XIIIe et XIVe siècle. Et je pense qu'il avait, oui, un désir ardent, disons, de diffuser...
Et de transmettre.
Il a travaillé avec nous, de diffuser son savoir... dans l'édition, puisque le savoir se diffuse encore aujourd'hui un petit peu.
Merci beaucoup, Franz-Olivier, d'être venu à la fin de cette dernière émission de la saison, donc à la Fabrique de l'Histoire, pour évoquer le travail donc que vous avez accompli avec Régis Boyer, qui est récemment disparu. Rappelons que les sagas légendaires islandaises sont publiées dans un gros tome donc de 1120 pages chez vous, donc dans votre maison d'édition Anacharsis. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Nous avions avec nous à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson et Séverine Cassard à la réalisation. Vous pourrez écouter d'autres émissions de la Fabrique de l'Histoire à partir de la semaine prochaine et pendant deux semaines, puisque nous pratiquons des rediffusions de la Fabrique de l'Histoire à la même heure que cette heure-ci. Et puis pendant toute la saison d'été, eh bien vous aurez également la possibilité de réécouter des documentaires de la Fabrique de l'Histoire le samedi à 8h sur France Culture. On se retrouve pour notre part à la rentrée, à la toute fin du mois d'août, avec une série d'émissions qui sera consacrée à l'histoire de l'anarchie.